D'abord, je dirais, j'ai affirmé contre Foucault, quelques-uns le savent, que la folie existe depuis toujours, depuis la plus haute antiquité, qu'elle est bien conçue comme une maladie, c'est-à-dire il y a bien une folie philosophique et une folie médicale, et ce ne sont pas du tout les mêmes folies. Cette folie est soignée par des médecins depuis la plus haute antiquité. Mais tout ça n'a rien à voir avec le droit. C'était l'introduction de l'introduction. Le droit, lui, est là aussi. Comme dans le discours de Petit Jean, je vais partir des Romains. Le jugement d'interdiction existe depuis l'Empire romain. Pour ce qui concerne les fous, et ce jugement d'interdiction a perduré jusqu'à nos jours, pratiquement sans modification notable. J'ose dire ça à des juristes qui le savent déjà. Mais ça peut être un peu notre fil conducteur, c'est-à-dire qu'il y a déjà un rapport entre, on ne va pas dire droit et psychiatrie, mais droit et folie. La psychiatrie, c'est une invention, au sens même sémantique du mot, qui, comme vous le savez, date de Pinel et du tout début du XIXe siècle. Mais la folie, elle, existe et donc, encore une fois, est bien perçue. Par contre, lorsque, au Moyen-Âge, laissons très vite les Romains, oui, il est temps de laisser les Romains, au Moyen-Âge, et sous l'Ancien Régime, qui est une période que je connais mieux, et qui d'ailleurs est une période... Alors, Ancien Régime, c'est vrai, je m'adresse à des juristes, 16e, 17e, 18e siècle, de ce que les historiens appellent l'Ancien Régime. Le jugement je reviens au jugement d'interdiction. Le jugement d'interdiction est... à ceci d'intéressant que lorsque on se prononce sur la folie, qui prononce la folie ? Qui dit « cet homme est fou » ? C'est le juge. Le médecin n'intervient pas. Et au Moyen-Âge, et sous l'Ancien Régime, c'est la même chose. Vous dire, ben alors quel est le critère ? Le critère, il est dans le manuel des inquisiteurs. Encore une confusion à ne pas commettre. Le fou... Le diable, ça, ce sont des inventions romantiques et postérieures. Par contre, si, que dans la chasse aux sorcières, il y a eu des fous qui disaient plus volontiers que d'autres que « oui, 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 j'ai vu le diable ce matin », ça, d'accord, hein, mais ils étaient brûlés comme sorciers, pas comme fous. Je reviens toujours à mon jugement d'interdiction. Le sot parle sottement. Voilà. La définition de la folie, le sot au sens du fou. Qu'est-ce que c'est qu'un sot ? Le sot est celui qui parle sottement. C'est-à-dire que les juges sont tout à fait capables, ou estiment être tout à fait capables, bon, à mon avis ils le sont, de reconnaître devant eux quelqu'un qui est notoirement fou. Et c'est tout le problème de la non-médicalisation, puisque le moyen de placement des fous, en fait, tout est en place sous l'Ancien Régime, sauf, je dirais, le droit. C'est-à-dire que la coutume, l'esprit qui l'emporte sans cesse sur la loi, mais ce n'est pas pour ça que l'Ancien Régime est une espèce de bateau ivre sans pouvoir et sans infrastructure. Et notamment, donc, laissons le jugement d'interdiction, on va le retrouver et on va essayer de nouer les fils dans cette introduction qui peut paraître un peu décousue et qu'il est volontairement. Mais le moyen de placement normal des fous, que sous l'Ancien Régime on appelle les insensés, qu'on appelle aussi les insensés au Moyen-Âge, est un moyen qui lui aussi a été très très mal interprété, et qui l'est encore aujourd'hui, c'est la lettre de cachet. La lettre de cachet, alors d'abord la soi-disant lettre de cachet, instrument d'un pouvoir féroce, à 85 ou 90% la lettre de cachet est demandée par les familles. Eh oui. Et quand c'est à l'initiative du pouvoir, on prend par exemple souvent l'exemple de Fouquet. Ah oui, mais alors, hein, la lettre de cachet contre Fouquet. La lettre de cachet qui arrête Fouquet ne fait que précéder un procès tout à fait normalement instruit par le Parlement. Donc, lorsqu'une lettre de cachet est demandée pour placer un insensé, il y a deux conditions qui limitent énormément le placement. La première, c'est que personne ne peut demander l'internement, un mot qui d'ailleurs existe un peu déjà, pas un petit peu, si on le voit un peu, sans payer un prix de pension. Alors ça c'est radical. Ça, autant les familles demandent volontiers le placement d'un des leurs quand c'est l'État plus tard qui paie, autant quand c'est celui qui demande qui paie, ça calme beaucoup les ardeurs de demande d'internement. Donc, il faut que la famille qui demande une lettre de cachet, je dis bien qui demande une lettre de cachet, au XVIIIe siècle, c'est un intendant. Si vous êtes, de Falaise, par exemple, prenons un exemple. Vous êtes de Falaise, vous voulez placer votre beau-père, dont vous avez la garde, et puis qui commence à dérailler sérieusement. Vous vous adressez à l'intendant de Caen, par exemple, M. Fontette, qui a laissé son nom à la place, tristement délaissée aujourd'hui. Et vous demandez une lettre de cachet, déjà en disant que si cette lettre de cachet est accordée, il est entendu que vous demandez un placement dans telle maison de force. Alors il y a des prix de pension, comme les hôtels. Vous avez des hôtels avec des prix différents, un confort différent. Donc ça va du très bas de gamme avec l'hôpital général, par exemple, Bicêtre pour les hommes, Salpêtrière pour les femmes. L'hôpital général de Caen, alors là, c'est le pire du pire. C'est vraiment, alors là, pour les plus miséreux. Et puis alors, vous pouvez monter la gamme comme ça, soit sur place, soit de très loin, dans des maisons de force qui commence à se spécialiser dans l'accueil des insensés, la plus connue, bien sûr, étant Charenton. Première condition. Deuxième condition, lorsque, d'abord, pour demander une lettre de cachet, il faut plutôt une pétition, c'est-à-dire qu'il faut que la demande de la famille soit contresignée par des témoins, par le curé, si possible, du village, de la paroisse, et il y a une enquête. Moi, je vois, les historiens voient comme ça ce qui s'est passé il y a plusieurs siècles, ça fait partie de nos talents un peu divinatoires. Je vois le subdélégué de Caen, comme ça, partir dans la neige pour une chevauchée au fond de l'Orne. Alors, l'Orne aujourd'hui, déjà, tout le monde ne l'atteint pas aisément, mais à l'époque, c'est très difficile. Va dans la neige pour constater l'état de folie de celui qui fait l'objet de la demande de l'aide de cachet. Et gare à la famille qui se serait amusée à mentir. Là, c'est la justice qui peut s'en mêler pour faux témoignage. Et le faux témoignage, c'est taxé beaucoup plus lourdement qu'aujourd'hui. Donc, tout est taxé plus lourdement qu'aujourd'hui dans la justice d'Ancien Régime. Donc voilà comment ça se passe. Et ça se passe bien. Et ça se passe tellement bien de la lettre de cachet, trop bien même, qu'au XVIIIe siècle, lorsque la lettre de cachet commence à être dénoncée par les philosophes et par le Parlement, c'est-à-dire par la justice. Pourquoi est-ce que la justice dénonce les lettres de cachet? Parce que elle est dessaisie, elle s'estime à tort, dessaisie. Elle n'est pas dessaisie, puisque c'est le roi qui détient la justice. Au contraire, la justice ne fonctionne comme justice que parce qu'elle tient son pouvoir judiciaire du roi. les lettres de cachet sont dénoncées. Et, alors là, j'ai quelques dates comme ça à vous jeter en pâture. Avant la Révolution, tout ça. Hein. On va faire un bond après, gigantesque, dans les 30 secondes qui vont rester. C'est comme dans Masterchef. À la fin, il faut aller très très vite. Et c'est là que c'est le plus beau. Mais les lettres de cachet sont dénoncées et le pouvoir royal, enfin, l'administration royale, le pouvoir, il y a des mots comme ça qui résonnent trop, commence à mettre de l'ordre et on va arriver à ce paradoxe extraordinaire. Je laisse les correctionnaires de côté, hein, les fous ne sont en aucun cas considérés comme des correctionnaires. Ils sont considérés comme des malades. Alors peut-être comme des malades qui dérangent, qui risquent de mettre le feu, mais des malades quand même. Rien à voir avec des correctionnaires type Marquis de Sade. On s'aperçoit que, en fait, la lettre de cachet est tellement bien organisée que l'injustice, à la limite, c'est de ne pas être sous le coup d'une lettre de cachet. C'est-à-dire que lorsque l'inspection générale des hôpitaux et des maisons de force est créé, 1781. En 1700, vous aurez trois dates, comme la maladie des historiens, ils donnent toujours les dates. Donc, 1781, inspection, création de l'inspection générale des hôpitaux et maisons de force. Et là, on voit les subdélégués, hommes des Lumières et d'une administration, à l'époque, d'une intelligence qu'on ne soupçonnerait pas. Ne jugeons surtout pas l'administration de l'Ancien Régime à l'aune de celle d'aujourd'hui. À l'époque, on a des gens intelligents, efficaces, vous voyez. Donc, c'est même pas la peine d'essayer d'avoir un élément de comparaison. Ils ont du pouvoir. Les subdélégués font de véritables descentes dans les maisons de force, des descentes, pour vérifier, un, que le fou est bien fou. À quoi est-ce qu'on voit que le fou est fou ? Le sot parle sottement. Deux, qu'il y a bien une lettre de cachet. Et souvent, l'injustice, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a eu un placement de gré à gré entre la famille et le supérieur d'un couvent, et qu'il n'y a pas eu de lettre de cachet. Et c'est là qu'est l'injustice. C'est-à-dire qu'on arrive à ce paradoxe que la lettre de cachet devient un garant, et non plus un instrument du despotisme royal. 1784. Circulaire Breteuil, on essaie de réglementer justement les lettres de cachet. 1785, je vous dis que vous auriez des dates, je vous les donne en vrac. En même temps, remarquez leur proximité. 1785, ça c'est la grande date. Alors, au nom de mémoire, on va essayer. Circulaire, alors qui s'appelle Instruction sur la manière de gouverner les insensés et de travailler à leur guérison dans les asiles qui leur sont destinés. Un typiquement 18e siècle, instruction sur la manière de gouverner les insensés et de travailler à leur guérison dans les asiles qui leur sont destinés. Bien évidemment, Foucault a transformé ça en instruction sur la manière de gouverner les insensés. Ce qui n'est plus du tout, mais du tout la même chose. Donc, dès avant la Révolution, il y a une volonté du pouvoir de réglementer le placement des insensés. Et puis, la Révolution arrive. Et cette Révolution, les lettres de cachet sont devenues tellement diaboliques, diabolisées et diaboliques, qu'elles sont abrogées et que, du coup, le moyen normal de placement des insensés disparaît. Que faire ? Une loi. Alors là, on n'était pas l'espèce de besoin de légiférer sans cesse, commence avec la Révolution. Et une loi, oui, mais la Révolution, ses heures et ses malheurs font que il faut attendre 1838. Pourquoi ? Parce que c'est seulement à ce moment-là qu'on a un pouvoir stable et qui va donc pouvoir enfin légiférer sur la loi de 1838, qui, elle, va organiser ce qui, finalement, était toujours le cas, un placement, alors par contre, avec obligation d'un asile par département. Je ne vais pas vous résumer la loi de 38 parce qu'il ne me reste plus de temps, mais cette loi de 1838 ne fait que, en fait, officialiser, reprendre, codifier, organiser administrativement, avec la tutelle des préfets, ce qui existait déjà sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire le placement volontaire, c'est-à-dire, en fait, comme son nom ne l'indique pas, à la demande des familles, et le placement d'office, quand il y a dangerosité pour soi et pour autrui, selon la formule classique. Alors, la loi du 138, qui d'abord, un, témoigne d'un souci extraordinaire, mais comme sous l'Ancien Régime, de respecter la liberté individuelle. La loi de 1838 est principalement une loi de finances, et elle est peut-être mauvaise par rapport aux extraordinaires progrès que nous connaissons aujourd'hui, en tout point, en tout lieu. Mais pour l'époque, c'est une très bonne loi, c'est une loi de finances principalement, c'est qui paie. Qui paie quoi? Qui paie quand? Et qui ne fait que reprendre ce qui finalement existait sous l'Ancien Régime, placement d'office, placement volontaire. Par contre, la loi du 138 introduit, j'allais pas dire sournoisement, mais enfin, on est quand même à l'article 25 de la section 3. On n'est quand même pas dans les premiers articles de la loi. Et qu'est-ce que dit cet article 25 de la section 3 ? Les aliénés dont l'état mental ne compromettrait point l'ordre public ou la sûreté des personnes y seront également admis. Et alors là s'ouvre toute grande la porte de la croissance exponentielle du placement de ce qu'on appelle plus les insensés, mais les aliénés. Évidemment, moi, je défends l'Ancien Régime, mais parce que, justement, je le vois fonctionner dans son intelligence. Et un intendant, pas celui de Caen, je ne sais plus, je veux dire celui de Grenoble pour vous faire plaisir, tiens. Un intendant, en tout cas, ça c'est sûr, écrit toujours, année 1780, la philanthropie, l'ère des réformes, si la révolution n'était pas arrivée, un malade ne doit pas subir une peine. On croirait entendre une phrase très récente d'un ministre de la Justice éclairé. Non, c'est un intendant au XVIIIe siècle qui écrit cela. Un malade ne doit pas subir une peine.